France Inter.
Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, Israël au secours des druzes de Syrie. L'armée israélienne s'est déployée dans le sud syrien. Reste à savoir dans quelle proportion. Nous serons en ligne avec notre correspondante dans la région, Marie-Pierre Véraud. À la une ce soir également, deux enquêtes ouvertes après la blessure par balle d'un homme hier soir à Drancy lors d'une intervention policière sur un rodéo urbain. Et puis nous verrons dans le nord de la Bourgogne comment un collectif tente de sauver de petites lignes SNCF menacées de disparition. Le temps de demain, Céline Dacosta, l'ambiance restera orageuse.
Oui, surtout sur la moitié sud où ces orages seront nombreux et souvent intenses.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes.
France Inter.
L'ONU appelle Israël ce soir à cesser immédiatement ses attaques contre la Syrie. L'armée israélienne s'est déployée ce matin dans le sud syrien pour protéger, dit-elle, des villages druzes menacés par les forces loyalistes. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir.
Correspondante dans la région. Alors, il faut rester assez prudent tout de même ce soir sur l'ampleur de ce déploiement de l'armée israélienne en Syrie.
Oui, d'abord parce qu'Israël ne donne aucune précision sur le nombre de troupes ou même l'étendue de ce déploiement. Selon des responsables druzes sur place, il n'y a ainsi aucun soldat israélien dans leur bastion de Souaïda. Il est difficile, en fait, dans le chaos ambiant, de dire si l'armée israélienne est allée au-delà des positions qu'elle occupe déjà dans le sud syrien depuis la chute de Bachar al-Assad. Ce qui est vérifié, en revanche, ce sont ces violentes frappes de nouveau la nuit dernière contre des sites de l'armée syrienne. Hier matin déjà, le cœur du pouvoir, les abords du palais présidentiel à Damas avaient été visés. C'est donc une escalade très nette, alors que l'aviation israélienne a déjà, depuis décembre dernier, mené des centaines de frappes en Syrie et détruit 80% de son potentiel militaire. Au-delà du sort des druzes, ce qui préoccupe vraiment Benjamin Netanyahou, c'est la perspective d'avoir une Syrie unifiée à sa portée, dirigée par les islamistes du HTS, d'où ces frappes qui s'intensifient pour affaiblir le gouvernement central.
Et il faut rappeler, Marie-Pierre, qu'Israël occupe la majeure partie du plateau du Golan syrien depuis la guerre des Six Jours en 1967.
Oui, occupation illégale, hein, rappelons-le, et l'armée de l'État hébreu en outre avançait encore ses positions depuis la chute du président syrien. Ses soldats sont entrés dans la zone démilitarisée qui sépare la partie qu'ils occupent déjà du territoire syrien. Ils se sont notamment emparés du versant syrien du mont Hermon, ce qui leur donne un poste d'observation privilégié et stratégique sur la Syrie, particulièrement sa capitale, Damas.
Marie-Pierre Véraud, correspondante de France Inter au Proche-Orient. Voilà l'homme le plus riche du monde en train de créer sa propre ville. C'est au Texas, à la frontière du Mexique, sur 4 km². Elon Musk veut transformer le complexe industriel de son entreprise SpaceX, Starbase, en une ville. Un peu moins de 300 personnes, principalement des employés de SpaceX, sont appelés à voter dans les prochaines heures. Hélène Chevalier.
Le terrain est modeste, à peine 4 km² près de la frontière mexicaine, des maisons préfabriquées, des rangées de caravanes et les deux pas de tir de SpaceX. Starbase n'est pas encore officiellement la ville d'Elon Musk, mais ici tout tourne déjà autour de l'entreprise spatiale et de son patron. Un gigantesque buste doré à son effigie s'élève d'ailleurs à l'entrée de la zone. Les résultats du scrutin font peu de doute puisque la grande majorité des 300 votants, dont le milliardaire, sont des employés de SpaceX. Elon Musk n'en sera pas le maire, mais il gardera la main sur les lieux. L'unique candidat à la mairie est son vice-président en charge des opérations de lancement. Au-delà de s'enorgueillir d'avoir sa propre ville, ce nouveau statut permettra à l'homme le plus riche au monde de décider des règles locales et un contrôle bien plus limité des autorités du comté. Les opposants au projet craignent eux de ne plus pouvoir accéder à une plage publique très populaire ou de nouvelles atteintes à l'environnement. SpaceX a déjà été condamné pour des déversements illégaux dans des cours d'eau du Texas.
Hélène Chevalier en ligne des États-Unis. En France, les députés peaufinent la loi sur la fin de vie. Le texte arrivera en séance le 12 mai. Eh bien, hier en commission, les députés ont adopté un amendement créant un droit à l'aide à mourir, un droit et non plus une seule possibilité. Je vous propose de faire un pas de côté en Belgique, là où l'euthanasie est légale depuis 2002. Là-bas, le plus ancien détenu du pays, Freddy Orion, vient de faire une demande d'euthanasie en raison, dit-il, de souffrances psychologiques insupportables après 45 années passées derrière les barreaux. Mais cette demande ne sera probablement pas acceptée. À Bruxelles, Laxmi Lota.
Cela fait 45 ans que Freddy Orion est emprisonné.
Depuis les années 90, il introduit une demande de libération conditionnelle tous les ans, sans succès. En 2023, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'État belge devait effectivement lui offrir une perspective de réinsertion. Aujourd'hui, désespéré par tous ces refus, à 77 ans, Freddy Orion demande l'euthanasie pour cause de souffrance psychologique insupportable. Mais la coprésidente de la commission de contrôle de l'euthanasie, Jacqueline Hermans, rappelle que la loi est très précise.
Il faut insister sur cette condition. Les souffrances doivent être causées par un problème médical. Sauf si l'on m'apporte la preuve que ce patient, ou plutôt que ce détenu, souffre d'une infection grave et incurable, il ne s'agit pas d'un cas qui peut entrer dans le cadre de la loi.
Souffrir parce qu'on est prisonnier ne constitue donc pas un argument valable. Le détenu va tout de même introduire sa demande. La Cour d'appel d'Anvers a confirmé en 2023 l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme. Freddy Orion devait être transféré dans une institution en vue d'une réinsertion, mais l'État belge s'est pourvu en cassation. Bruxelles, Lax-Milota, France Inter.
Au Vatican, les concertations se sont poursuivies aujourd'hui pour trouver un successeur au pape François. 9e journée de congrégation générale des cardinaux avant le conclave qui débutera, lui, mercredi prochain.
France Inter. Éric Delvaux.
Deux enquêtes sont ouvertes après la blessure par balle d'un homme hier soir à Drancy, en Seine-Saint-Denis, lors d'une intervention policière sur un rodéo urbain. Deux procédures donc, l'une confiée au service départemental de la police judiciaire pour les violences sur les policiers, et l'autre confiée à l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, pour l'ouverture du feu par les forces de l'ordre. Manon Derdevet.
Beaucoup de vidéos sont en cours d'exploitation pour connaître les détails du déroulement exact de la soirée, assure le parquet. L'enquête confiée à la police des polices doit permettre de faire la lumière sur les circonstances de l'ouverture du feu. Dans une de ces vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit une altercation entre deux policiers et plusieurs individus autour d'une motocross. L'un des agents tire en l'air à plusieurs reprises avant d'être bousculé par un jeune homme. C'est ce dernier qui est touché par balle, transporté hier à l'hôpital dans un état d'urgence absolue. Le parquet précise aujourd'hui qu'il va bien. Un policier blessé au dos a également été hospitalisé. L'autre enquête se concentre sur les violences sur les policiers au cours du rodéo urbain. Dans le cadre de cette enquête, trois personnes sont toujours en garde à vue, soupçonnées de tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Manon Derdevet. Lui avait été interpellé mardi pour des soupçons de viol et agression sexuelle sur d'anciens élèves de lycée. Un ancien professeur du lycée militaire de Pritane, c'est au sud du Mans, a été retrouvé mort ce matin. Le suicide est la thèse privilégiée. Ils sont arrivés ce matin en gare de Bercy en courant, non pas pour attraper leur train, mais pour tenter de sauver leur ligne SNCF au nord de la Bourgogne. Cours pour garder ta ligne, c'est le nom de cette course de relais. Elle est partie jeudi de Corbigny dans la Nièvre, organisée par un collectif de sauvegarde des lignes SNCF, notamment entre Corbigny et Clamecy, où la ligne trop vétuste est menacée de fermeture. Farida Noir a assisté ce matin à l'arrivée des coureurs en gare de Paris-Bercy.
C'est une course en relais de 376 km qui prend fin, et pour ceux qui franchissent la ligne d'arrivée sur le parvis de la gare de Bercy, c'est aussi une course contre la montre qui s'engage. Pour garder cette ligne, sa disparition représenterait un risque sanitaire, alerte Nicolas Bourdoun, le maire de Clamecy.
Nos habitants en fait accèdent à une offre de soins qui n'est proposé essentiellement plus que sur la région parisienne, et donc pour se faire prennent le train. Et de la même manière, nous avons des hôpitaux avec des services d'urgence fragiles, mais qui fonctionnent au quotidien grâce au soutien de médecins urgentistes franciliens.
Parmi les coureurs, Geoffrey, il s'est installé à Corbigny justement parce qu'il y avait cette ligne et pour tout ce qu'a à offrir la région.
En prenant le train, on s'installe, c'est un direct, c'est 3h30. On prend son sac à dos, 10 minutes, on marche, on est dans le Morvan, forêt, lac, escalade, rafting, des choses de super.
Remettre sur les rails cette ligne vétuste a un coût, 50 millions d'euros selon les estimations.
Si on ne gagne pas sur ce combat des lignes du Morvan, mais bien au-delà des lignes de Morvan.
Fabien Villedieu est le secrétaire fédéral Sudrail.
On va fermer des lignes ferroviaires et on se dit quand même qu'en 2025, avec le changement climatique, fermer 1000 km de ligne, enfin c'est quand même un petit peu bête.
Les coureurs repartent cette fois en train sur cette ligne qu'ils espèrent ne jamais voir fermée.
Reportage de Farida Nouar. Un mot de politique avec Laurent Wauquiez, actuellement en campagne pour devenir le chef du parti LR. Il appelle dans le JDD de demain à établir un cordon sanitaire sanitaire autour de LFI, dit-il, les Insoumis qui seraient devenus, selon lui, une menace pour la France. Le football, avec la marque Paris FC qui a décidément le vent en poupe. Hier soir, l'équipe masculine a décroché son billet pour évoluer l'an prochain en Ligue 1. Eh bien, voilà que cet après-midi, les footballeuses du Paris Football Club ont remporté la Coupe de France, féminine donc, aux dépens des autres parisiennes du Paris Saint-Germain. Victoire 5 tirs au but à 4. Bonsoir Thomas Palmier.
Bonsoir.
Est-ce que vous m'entendez ? Oui, vous avez suivi ce match et c'est donc un week-end de consécration pour le Paris FC.
Oui, c'est un week-end de rêve, un week-end de gloire pour le Paris FC. Vendredi soir à Martigues, l'équipe masculine a validé sa montée en Ligue 1, un retour dans l'élite, 46 ans après sa dernière apparition. Et puis dans la nuit, les dirigeants parisiens ont traversé la France pour rejoindre Calais. Pierre Ferracci, le président, Antoine Arnault, le nouvel actionnaire majoritaire, et Rai, l'ambassadeur du club. Il y avait même le milieu de terrain, Maxime Lopez, qui a fait le voyage pour supporter l'équipe féminine. Les Parisiennes ont battu le PSG lors de la séance de tir au but. C'est le premier titre de l'histoire de la section féminine du PFC. Il suffisait d'observer tout à l'heure le sourire de Pierre Ferracci dans les couloirs du stade de l'Épopée à Calais pour comprendre ce que signifie ce week-end. Le président a toujours accordé beaucoup d'importance à sa section féminine et ce titre valide les progrès entrevus depuis de nombreuses années. Cette équipe qui profite de l'élan qui accompagne le rachat du club par la famille Arnault et Red Bull. La section féminine n'a d'ailleurs pas encore fini sa saison. Les coéquipières de Gaëtan Tiné affronteront à nouveau le PSG dimanche prochain en demi-finale du championnat de France. Elles sont en course pour un incroyable doublé coupe-championnat. Mais 2024-2025 est déjà une saison qui fera tête dans l'histoire du PFC. Hommes et femmes confondus.
Thomas Palmier, pardon pour cette ligne techniquement de mauvaise qualité. Toujours un mot de football avec le Paris Saint-Germain, très remanié, qui s'est incliné cet après-midi à Strasbourg de 2-1. C'est la deuxième défaite d'affilée en Ligue 1 avant la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Ce sera mercredi contre Arsenal. Voilà une course au trésor qui aura duré 31 ans, elle s'est achevée le 3 octobre dernier, quand la réplique de la Chouette d'Or a été retrouvée. L'endroit est resté secret encore 6 mois. Et ce n'est qu'hier, avec un documentaire diffusé dans les salles de cinéma, qu'a été révélé le lieu exact où est enterré ce trésor. C'est donc à Dabot, en Moselle. Et bien, malgré ce documentaire qui lève le mystère, il reste encore des passionnés de la Chouette d'Or qui ne croient toujours pas en la version officielle présentée hier soir. Juliette Gloria a assisté hier à la séance de cinéma à Metz.
Impatiente, Nathalie l'est surtout pour savoir si son frère avait raison.
Il devait avoir 15-16 ans quand ça a commencé et toute sa vie, ouais, ça l'a hanté, on va dire.
30 ans qu'elle le voit tenter de décortiquer les énigmes.
Le matin où elle a été découverte, il m'a envoyé un message direct en me disant... Ça y est, ils l'ont trouvé.
Au nom de ce schisme, Dabot ou pas Dabot, bien, je crois qu'aujourd'hui, il paraît légitime que je vous réponde. C'est Dabot.
Donc voilà, c'est un petit pincement au cœur.
Cathy, elle, faisait partie des chouetteurs daboïstes, ceux convaincus que la réplique était enterrée à Dabot.
Nous, la première fois qu'on allait creuser, c'était en 2001.
Et aujourd'hui, cette mère de famille s'est reconnue dans les témoignages des chouetteurs du documentaire.
L'adrénaline, le fait de chasser dans le noir pour pas être connue, enfin, toutes ces choses-là, c'est sûr que forcément, on les vit. C'est une belle émotion parce que c'est une belle fin quand même. On est content pour la personne qui a trouvé. Quoi.
Mais tout le monde n'est pas de cet avis.
J'y crois pas un instant.
La communauté des chouetteurs est divisée, comme Stéphane qui pense que la chouette n'a pas été retrouvée.
J'adhère pas au récit qui nous a été proposé là dans cette fiction.
Donc vous allez continuer de la chercher ?
Ouais, c'est la bonne nouvelle pour moi.
Pour les autres, une nouvelle quête commence. Une deuxième chouette est cachée et...
Elle va redécoller de là où elle était enfouie.
Dabot n'a pas fini d'en entendre parler.
La découverte de la Chouette d'Or. Le film est toujours en salle actuellement un peu partout en France. Bref, mais intense, l'orage de grêle cet après-midi au-dessus de Paris. Vous entendez le bruit des grêlons tapés sur les vitres de France Inter à 16 heures passées. Orage suffisamment violent pour créer quelques perturbations sur plusieurs lignes de métro de la capitale. Tout est revenu dans l'ordre. Une super cellule gréligène, explique David Dumas. Il est météorologue à Kéronos, c'est l'observatoire français des orages.
Alors on a comptabilisé une dizaine d'impacts de foudre, c'est-à-dire des éclairs qui touchent le sol dans Paris intramuros, et en tout un peu plus de 160 éclairs au total, c'est-à-dire en comptabilisant les éclairs qui se produisent entre les nuages. En une demi-heure, Paris, c'est quand même une petite superficie, donc oui, c'est beaucoup. Ça rentre typiquement dans la caractéristique des orages forts, qui produisent des grêlons de 2 à 5 cm de diamètre. C'est la définition de l'orage fort qu'on retient, mais c'est pas exceptionnel, c'est des orages comme il peut s'en produire tous les étés. Mais c'est des orages qu'on a l'habitude de rencontrer au printemps aussi, à l'intersaison, quand il y a de l'air froid qui est encore en altitude bien présent, et là, il y a de l'air froid qui descend de mer du Nord, et donc c'est ce conflit de masse d'air qui a généré ces orages. Alors, le hasard fait qu'il ait touché Paris. Il aurait pu passer un peu plus au nord, un peu plus au sud, mais là, ça a touché Paris d'ouest en est et toute la petite couronne.
Voilà, à propos recueilli par Simon Le Baron, et cela nous conduit directement au temps.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Eh bien nous n'en avons pas fini avec les orages demain.
Oui, et c'est surtout la moitié sud qui sera concernée par ce ciel agité. Le matin, ce sera surtout nuageux avec une ambiance lourde et déjà quelques coups de tonnerre sur le sud-ouest. Mais avant la mi-journée, ça va se dégrader. Les orages deviendront fréquents avec des averses intenses. D'abord des Pyrénées au Massif central, puis sur l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse. Avec de bons cumuls de pluie et de la grêle possible, les côtes méditerranéennes devraient rester à l'écart avec juste quelques ondées. Plus au nord, ce sera encore un peu perturbé demain matin avec des pluies du sud de la Bretagne, pays de la Loire jusqu'au Grand Est, mais ça va se calmer dans l'après-midi et pour le reste de la moitié nord. En revanche, on aura le retour d'un temps sec avec des éclaircies toute la journée.
Oui, mais avec une chute spectaculaire des températures.
Oui, parce qu'on a de l'air polaire qui s'engouffre par le nord. Résultat, on perd jusqu'à 10 degrés, parfois plus, avec 13 à 18 degrés sur la moitié nord. Ça change de l'ambiance estivale de cette semaine. 17 à 22 pour la moitié sud. Encore 25 quand même près de la Méditerranée.
Céline Dacosta.